Alors, vous l'avez entendu, nous étions à Teen Street, ce congrès pour les ados de 13 à 17 ans en Allemagne, pendant toute une semaine. Et nous avons eu là un temps très fort ensemble. Et vous avez déjà entendu deux des jeunes parler ce matin, donner un petit mot de témoignage pour vous donner une idée de ce que nous avons vécu. Il fallait être sur place pour vraiment vivre cet événement, mais nous souhaitons vous faire un petit retour de ce que nous avons vécu là-bas. Et moi-même, dans cette prédication, qui aura plutôt la forme d'un partage ce matin, j'aimerais vous dire un petit peu quel enseignement nous avons reçu pendant ce séjour. Ce moment très fort émotionnellement, mais aussi très riche d'enseignements bibliques. Et nous avions un petit guide, chacun, et chaque pays avait son guide traduit dans sa langue. Et donc, nous, en français, nous avions ce guide. Et chaque jour, il y avait un thème, un verset biblique, et puis un temps de méditation de la parole de Dieu, un temps de méditation personnelle. Et puis un temps de discussion en petits groupes. Les jeunes se retrouvaient avec leurs animateurs pour discuter ensemble autour de la parole de Dieu. Et il y avait des allers-retours entre les grandes réunions dans la grande salle avec la louange, avec Josh et Debs Walker qui étaient les intervenants, les orateurs et qui partageaient avec nous leur enthousiasme pour vivre avec Dieu. Il y avait un aller-retour entre ces grands moments et les moments en petits groupes où nous regardions plus dans la parole de Dieu, qu'est-ce qui est dit, qu'est-ce que nous pouvions retenir chacun pour notre vie. Et j'aimerais partager avec vous ce matin ces quelques étapes que nous avons parcourues ensemble. Donc je vais passer 6 points, il y avait 6 jours et 6 moments bibliques en petits groupes. Et assez rapidement, j'aimerais mentionner avec vous ces 6 points et lire un texte biblique, faire quelques mots de commentaire, mais peut-être surtout essayer de faire résonner à vos oreilles ces paroles de la Bible que nous avons entendues pendant toute cette semaine. Alors, si vous avez une Bible avec vous, je vous invite à l'ouvrir dans l'épître de Paul aux Éphésiens, dans le Nouveau Testament, pour la première étape. Et le premier jour, nous avons commencé fort avec ce thème du Dieu de l'infiniment plus. Peut-être vous avez remarqué qu'Olivier en a parlé. Le Dieu de l'infiniment plus. Éphésiens, nous allons lire deux passages. D'abord au chapitre 1, les versets 18 à 20. Éphésiens, chapitre 1, versets 18 à 20. C'est Paul qui est en train d'adresser une prière et remerciement à Dieu pour l'église d'Éphèse. Et il prie que Dieu illumine les yeux de votre cœur afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints, et quelle est la grandeur surabondante de sa puissance envers nous qui croyons, selon l'action souveraine de sa force. Il l'a mise en action dans le Christ en le ressuscitant d'entre les morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Et puis le texte continue et vous pourrez lire la suite à la maison. Voyez ces mots, glorieuse richesse de son héritage, la grandeur surabondante de sa puissance. Notre Dieu est le Dieu de l'infiniment plus. Et puis au chapitre 3, encore deux versets, Éphésiens chapitre 3, versets 20 et 21. À celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui la gloire dans l'Église et en Christ Jésus dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Celui qui agit en nous et qui peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Et nous sommes arrivés là à Tin Street, et le premier message, c'était ça. Mettre nos yeux sur ce Dieu qui est le Dieu de l'infini, le Dieu qui est au-delà de tout ce que nous pouvons penser et imaginer, de tout ce que nous pouvons mesurer. Et nous en mesurons des choses. Nous avions chacun un petit ruban. Peut-être certains reconnaîtront les rubans de célèbres magasins de meubles suédois. Voilà. Un petit ruban, nous mesurons tout. Avec ça, je peux mesurer mon tour de tête, je peux mesurer la largeur de ma main. Mais nous mesurons des performances sportives. Nous mesurons des performances financières. Nous mesurons notre compte en banque. Nous mesurons notre poids. Nous mesurons tout un tas de choses. Et dès cette première rencontre, nous étions encouragés à déchirer cette mesure. Non pas que nous ne mesurons plus jamais rien, mais que le Dieu auquel nous avons affaire n'est pas mesurable. Il est au-delà de tout ce que nous pouvons penser et imaginer. Ça, c'était le premier jour. Après avoir fixé nos yeux sur le Dieu de l'infiniment plus, nous étions encouragés à écouter sa voix. Et j'aimerais lire avec vous un texte dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 10, un texte bien connu où Jésus se présente comme le bon berger. Jean, chapitre 10. Et je lirai la première partie du chapitre. Jean chapitre 10, verset 1. « en vérité, je vous le dis, » c'est Jésus qui parle, « celui qui n'entre point par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par un autre côté, celui-là est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre, et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent, et il les emmène dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes celles qui lui appartiennent, il marche devant elles, et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. » Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Jésus leur dit encore, « en vérité, je vous le dis, moi, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira et trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour voler et tuer et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles l'aient en abondance. Moi, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas berger et à qui les brebis n'appartiennent pas voit venir le loup, abandonne les brebis et s'enfuit. C'est parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met pas en peine des brebis. Mais moi, je suis le bon berger. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. » J'arrête là la lecture, mais là encore, vous pourrez lire la suite du chapitre à la maison. Jésus qui s'adresse au peuple d'Israël, qui leur dit qu'il est ce berger venu pour rassembler les brebis de son troupeau du peuple d'Israël. Il a encore d'autres brebis à aller chercher, c'est ce que nous dit la suite du chapitre 10. Et ça, c'est le travail de l'Église auprès des non-juifs. Mais déjà dans ce texte, nous entendons la voix de ce berger qui nous appelle à le suivre. Écouter la voix du berger et suivre le berger. Voilà le deuxième encouragement que nous avons reçu. Avec cette question, quelle voix écoutons-nous ? Quelle voix écoutons-nous ? Est-ce que nous écoutons la voix de l'ennemi, du mercenaire dans le texte ? Est-ce que nous écoutons notre propre voix ? Ou bien est-ce que nous écoutons la voix de Dieu, le bon berger ? Troisième temps fort, troisième thème, plus que des mots, au-delà des mots. Et là, après avoir parlé du Dieu de l'infiniment plus, et du fait que nous devions écouter sa voix, nous étions encouragés au fait que les mots ne suffisent pas toujours et qu'il y a la parole et il y a l'Esprit de Dieu qui travaille ensemble. Et nous allons lire là aussi quelques versets dans l'Épître aux Galates, donc un petit peu plus loin dans le Nouveau Testament, juste avant Éphésiens que nous avons lu tout à l'heure. Épître de Paul aux Galates, chapitre 5. Si nous faisons partie du peuple de Dieu, de son troupeau, et que nous marchons à sa suite, comment devons-nous marcher ? Galates 5, et je lirai à partir du verset 16. Je dis donc, c'est Paul qui parle, marchez par l'esprit, et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. La chair, c'est cette tendance naturelle de l'être humain à se détourner de Dieu. Car la chair a des désirs contraires à l'esprit, et l'esprit en a de contraires à la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Mais si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes, c'est-à-dire l'inconduite, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les hostilités, la discorde, la jalousie, les fureurs, les rivalités, les divisions, les partis pris, l'envie, l'ivrognerie, les orgies et les choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui se livrent à de telles pratiques n'hériteront pas du royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. La loi n'est pas contre de telles choses. Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. Et donc, en tant que chrétiens, nous sommes non seulement appelés à écouter la voix de notre bon berger, à le suivre, mais à le suivre par son Esprit qui vit en nous. Dieu veut nous transformer par son Esprit. Et le défi qui nous était lancé aux jeunes et à nous les adultes qui étions là-bas, à Teen Street, c'est de prendre Jésus au mot et de vivre selon son modèle. Et le psaume 34 nous invite à goûter et à voir combien Dieu est bon. Goûtez et voyez combien Dieu est bon. Et chacun de nous a reçu une petite sucrerie. Alors là-bas c'était des sucettes, là j'ai amené un bonbon. Goûtez et voyez combien le Seigneur est bon. Et ça, goûter, manger, ça parle aux jeunes, aux adultes aussi. Goûtez et voyez combien le Seigneur est bon. Suivez l'exemple de Jésus-Christ. Prenez Jésus au mot et suivez son modèle. Le quatrième jour, j'ai cherché un titre et je l'ai intitulé « D'humble serviteur ». D'humble serviteur. Suivre et écouter la voix du Dieu de l'infiniment plus, prendre Jésus au mot pour le suivre, cela veut dire se faire serviteur des autres, prendre soin des autres. C'est l'exemple de Jésus dans Jean chapitre 13. Jésus qui met le tablier des serviteurs, des esclaves, et lave les pieds de ses disciples. Nous ne lavons pas les pieds les uns des autres, mais nous sommes appelés à retenir le principe, nous mettre au service les uns des autres, nous aimer les uns les autres. Et nous avions pour cela deux exemples, l'exemple de Marie. Marie, la mère de Jésus. Luc, chapitre 1. Marie reçoit la visite d'un ange, ça ne nous arrive pas tous les jours, mais ça a été le cas pour elle. Une apparition spéciale de ce Dieu de l'infiniment plus. Un ange qui lui apparaît et qui lui annonce qu'elle va être enceinte, non pas de son mari, mais de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu va faire quelque chose de miraculeux. Elle va tomber enceinte sans avoir eu de relation sexuelle avec son mari. Et elle va porter en elle le Fils de Dieu. Jésus, le Messie, celui qui doit sauver son peuple de ses péchés. Le futur roi, selon la lignée de David. C'est pas n'importe qui est annoncé. Et Marie réagit d'une façon étonnante devant cette apparition et devant cette nouvelle. D'abord, elle a peur, mais ensuite, une fois que l'ange lui explique comment les choses vont se passer, elle dit ceci, Luc chapitre 1 et verset 38. « Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » C'est remarquable, n'est-ce pas, comme réponse. Peut-être que nous aurions fait plutôt comme Zacharie, juste avant dans le chapitre, mais est-ce que ça va vraiment arriver? Voilà. Et Marie a confiance, et plusieurs fois, il nous est dit dans l'évangile selon Luc, qu'elle repassait ces choses en son cœur, elle y réfléchit, elle y repense, elle se rend compte que ce fils qu'elle porte, à qui elle donne naissance, qu'elle élève, et qui un jour part de la maison et commence à prêcher, et commence à guérir, et meurt sur une croix. Elle comprend peu à peu que cet homme n'est pas n'importe qui. Marie est l'exemple, un exemple d'humilité. Elle se met au service de Dieu qui l'appelle. Et un autre exemple qui nous était donné dans l'évangile selon Matthieu au chapitre 18, c'est celui d'un enfant. Matthieu chapitre 18, verset 1 au verset 5. À ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent : Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ? Eh oui, Dieu est le Dieu de l'infiniment plus. Alors, qui va être le plus grand ? Qui va être le meilleur ? Qui va être le préféré ? Alors, Jésus appela un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit : En vérité, je vous le dis, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme des petits-enfants, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. Un enfant, à l'époque, il n'avait pas, comme aujourd'hui, des droits, les droits de l'enfant, qui sont même reconnus au niveau européen. L'enfant, à l'époque, au 1er siècle, que ce soit dans la société juive ou dans la société romaine, n'avait aucun droit. C'est le chef de famille qui avait tous les droits sur sa femme, sur ses enfants, et même sur les enfants de ses esclaves qui lui appartenaient. Eh bien, Jésus prend un petit enfant et le présente à ses disciples qui discutent pour savoir qui d'entre eux est le plus grand. Il le place là, ce petit enfant, pour le dire. Voilà comment vous devez devenir si vous voulez entrer dans le royaume de Dieu. À un moment, nous étions même encouragés par les orateurs à rester des enfants. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Je pense que nous sommes invités à devenir comme des enfants parce que nous sommes appelés à être humbles devant Dieu. Mais d'autres textes de la Bible nous appellent à devenir des hommes et des femmes, mûrs dans la foi, à acquérir de la maturité. Donc, devenir des enfants pour entrer dans le royaume, et lorsque nous entrons dans le royaume, nous sommes appelés à grandir. Oui, à rester des enfants de notre Père Céleste dans la relation avec lui, mais des enfants qui deviennent des fils et des filles adultes. L'exemple de Marie, l'exemple de cet enfant, d'humble serviteur du Dieu de l'infiniment plus. Cinquième point, Ce Dieu de l'infiniment plus, la Bible nous le présente comme un Père. Et nous allons lire un texte dans Luc, au chapitre 6. Luc, chapitre 6, versets 31 à 36. Jésus discute avec ses disciples et les encourage à aimer leurs ennemis. Voilà une parole qui n'est pas facile à entendre. Aimez vos ennemis, c'est ce qu'il dit au verset 27. Je reprends la lecture au verset 31. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le pareillement pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on ? C'est-à-dire, qu'allez-vous recevoir ? Quelle récompense allez-vous recevoir ? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en saura-t-on ? Les pécheurs aussi en font autant. Et si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, qu'allez-vous recevoir ? Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs afin de recevoir l'équivalent. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer. Votre récompense sera grande et vous serez fils du Très-Haut. Car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Si nous sommes fils et filles du Dieu de l'infiniment plus, alors nous sommes appelés à aller au-delà des barrières que nous nous mettons ou que les autres nous mettent aussi, les barrières relationnelles. Et quand quelqu'un nous fait du mal, il n'est pas facile d'aimer. Mais notre Père céleste est miséricordieux. C'est-à-dire que ceux qui méritent une punition ne reçoivent pas, en tout cas pas tout de suite, la punition ou toute la punition qu'ils mériteraient. Si Adam et Ève avaient reçu la punition qu'ils méritaient en Genèse chapitre 3, aucun de nous ne serait là aujourd'hui. Dieu avait dit, si tu manges, le jour où tu mangeras de l'arbre, du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras. Mais la mort n'est pas arrivée d'un coup. Par contre, à partir du moment où l'homme et la femme ont péché, ils sont devenus mortels et ils sont morts un jour. Et nous tous, nous allons mourir. Mais Dieu a prévu un moyen d'échapper à la mort. Pas la mort physique, mais la mort éternelle. La mort spirituelle. Et donc, les méchants de ce monde sont en sursis et ont l'occasion encore, parce que Dieu est bon, de se tourner vers lui. Parce que Dieu est un Père qui aime les êtres humains. Il veut que tous les hommes soient sauvés. Et donc, nous qui sommes chrétiens, nous qui appartenons déjà à ce Père céleste, nous sommes appelés à aimer ceux qui ne nous aiment pas, à aimer ceux qui n'aiment pas Dieu et à leur dire, il y a un Dieu d'amour, il y a un Dieu de l'infiniment plus. Dieu est bon, Dieu vous aime, mais Dieu est juste aussi. Et si vous ne vous détournez pas de vos péchés, un jour, vous allez le payer cher. Et c'est la parabole des talents de tout à l'heure, le troisième serviteur. Où va-t-il ? Il va au même endroit que dans les deux autres paraboles de Matthieu 25. Les boucs et les brebis qui sont séparés, les vierges sages et les vierges folles. Certains vont à la vie éternelle et d'autres à la mort éternelle. Et donc Dieu est un Père qui aime mais Dieu est aussi un Père juste. Nous avons médité aussi la parabole du fils prodigue, Luc chapitre 15. Nous n'allons pas la lire maintenant. Ce père qui veut que ses deux fils, celui qui revient et puis celui qui est resté dans son giron, celui qui est resté tout près de lui par devoir, ce père a la même attitude envers les deux. Il sort à leur rencontre pour les inviter à se réjouir et à entrer dans la fête. Comme dans la parabole des talents, il voudrait dire à ses deux fils, « Viens, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. » Ainsi, ceux qui appartiennent au Père Céleste sont assurés de faire la fête un jour, parce que la grâce de Dieu pour eux est sans limite. Et c'est cette petite carte que nous avons reçue, peut-être vous vous rappellerez ces petits signes, les jeunes, voilà. Greater than more. Mieux que plus. Je ne sais pas si c'est une bonne traduction. La grâce de Dieu, c'est mieux que tout ce qu'on peut imaginer. Et le sixième et dernier jour, là encore, j'ai cherché un titre pour traduire ce qui était dit en anglais. Et j'ai intitulé « Avec Dieu, nous ferons des exploits ». Parce que ça nous rappelle quelque chose, un chant bien connu. Et j'aimerais lire un dernier texte avec vous, cette fois dans l'Ancien Testament, un psaume, le psaume 20. Psaume 20. Que l'Éternel te réponde au jour de la détresse. Que le nom du Dieu de Jacob te protège. Que du lieu saint il t'envoie du secours. Que de Sion il te soutienne. Qu'il se souvienne de toutes tes offrandes. Qu'il agrée tes holocaustes. Qu'il te donne ce que ton cœur désire. Et qu'il accomplisse tous tes desseins. Nous crierons de joie à cause de ton salut. Nous lèverons l'étendard. Au nom de notre Dieu, l'Éternel accomplira toutes tes demandes. Je reconnais maintenant que l'Éternel sauve son Messie. Il lui répondra de son sanctuaire céleste par le secours puissant de sa droite. Les uns, c'est à leur char, les autres, c'est à leurs chevaux, mais nous, c'est au nom de l'Éternel, notre Dieu, que nous faisons appel. Eux, ils plient et ils tombent. Mais nous, nous sommes debout et nous tenons ferme. Éternel, sauve le roi, qu'il nous réponde quand nous l'invoquons. Amen. Un chant qui évoque peut-être un chant de guerre. Avec des paroles très positives, nous allons réaliser tout ce que nous souhaitons. Dieu va nous aider. Dieu va réaliser nos désirs. Et peut-être les ennemis mettent leur confiance dans leur puissance militaire, les chevaux, les chars. Mais nous, c'est dans le nom du Seigneur que nous nous confions. Alors, nous n'avons pas de combat militaire à mener aujourd'hui, ni dans la semaine qui vient. Mais nous sommes dans un combat spirituel. Et ce ne sont peut-être pas les chevaux ou les chars qui sont devant nous, mais d'autres défis, des défis financiers, des défis de couple, des défis familiaux, des défis professionnels. Et Dieu est là. Dieu est là pour nous aider. Est-ce que nous plaçons notre confiance en Dieu seul? Ou est-ce que nous nous confions aussi dans nos propres forces, comme le rappelait Peter tout à l'heure? La célèbre prière du Notre Père nous rappelle, puisque c'est Jésus qui l'a enseigné à ses disciples, que lorsque nous prions notre Père qui est dans les cieux, nous ne commençons pas par lui demander « Donne-nous ceci » ou « Fais cela pour nous ». Cela vient dans la prière, mais pas dans un premier temps. D'abord, c'est « Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom, comme ce psaume le dit, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Dieu est roi. Est-il roi dans ma vie? Et dans quel domaine de ma vie n'est-il pas encore le roi? Ensuite viennent les demandes. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Nos demandes, nos désirs, nos souhaits sont légitimes, souvent. Mais ce qui compte, comme nous l'avons chanté tout à l'heure, c'est de chercher d'abord le royaume de Dieu. Et toutes ces choses, Dieu sait que nous en avons besoin. Et il nous les donnera. Voilà un petit peu le bain dans lequel nous avons nagé pendant cette semaine à Teen Street. Mis au défi de rencontrer le Dieu de l'infiniment plus, d'écouter sa voix qui est celle du bon berger, et au-delà des mots, d'écouter son Saint-Esprit en nous, comme d'humbles serviteurs qui veulent faire la volonté de leur Père céleste et dire « Avec Dieu, nous ferons des exploits ». Teen Street a été, je crois, un puissant encouragement à mettre Dieu au cœur de nos vies. Par la mort et la résurrection de Jésus, notre Père céleste nous a réconciliés avec lui. Et si nous lui appartenons, nous avons l'assurance que son Saint-Esprit habite en nous et produit son fruit pour nous transformer à l'image de son Fils, le fruit de l'Esprit dont nous avons parlé tout à l'heure. Alors, les jeunes qui êtes allés à Teen Street, je ne sais pas si vous êtes déjà redescendu de votre nuage, mais n'oubliez pas ce que vous avez reçu. Il y avait du monde, l'émotion était forte, nous avons fait beaucoup de choses, nous avons vécu beaucoup de choses, et puis nous retrouvons la vraie vie, le quotidien, les jeux vidéo, les copains, les copines, les activités. Alors c'est encore les vacances, mais la rentrée va arriver. Qu'est-ce que vous allez faire de ce que vous avez reçu? Qu'est-ce que vous allez faire de ces paroles de la Bible que vous avez entendues? Est-ce que ça va rester un bon moment et l'émotion d'une semaine? Ou est-ce que vous allez essayer d'aller plus loin dans votre relation avec Dieu? Et bien évidemment, cette question ne se pose pas seulement aux ados, mais à nous tous qui sommes là. Pour nous qui sommes chrétiens, nous appartenons déjà à Dieu parce que Dieu nous a appelés à lui. Il est le bon berger qui appelle ses brebis. Ce n'est pas nous qui sommes venus vers lui de nous-mêmes. Mais est-ce que nous écoutons sa voix pendant cet été? Et si nous ne sommes pas chrétiens, si nous n'appartenons pas à ce Père céleste, alors peut-être l'une ou l'autre de ces paroles de l'Écriture vous aura interpellé et vous encouragera à aller plus loin pour rencontrer ce Dieu de l'infiniment plus. Amen.